I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips.
Santé, Mario! Ouais!
Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious!
Il est espagnol, Rafael Nadal!
Salut, c'est Max. Bienvenue pour ce 34e épisode avec Jean-François Cojol. Sudiste, pur enfant marseillais, personnage tellement cool avec qui parler tennis. Jeff nous raconte le circuit à une époque où il y avait 150 mecs sur le tour, où les légendes comme Connors étaient logés chez l'habitant, et où il était possible de gagner ses deux premiers matchs à Roland en jouant quasi en marchant, match qui se jouait d'ailleurs au meilleur des trois manches à l'époque. Notre gaucher revers à une main nous fait vivre la partie qui l'a le plus marqué pendant sa carrière. C'était en 1980 contre Jimmy Connors, numéro 3 mondial à ce moment, sur le central de Roland-Garros, après avoir mené 2-7 à 0, le public s'était soudainement mis à encourager Jim Ball, gaucher américain. Et oui, derrière sa belle crinière blanche et ses airs nonchalants, on parle quand même d'un gars qui a battu 4 numéro 1 mondiaux à son époque. Cajot nous racontera ses victoires épiques. On parle aussi de son attitude sur le court et de ses croyances face au public français avec lequel il a eu beaucoup de mal et avoue comprendre le comportement parfois atypique des Rios, Pères et autres Kyrgios. Sachez que si vous voulez mieux comprendre votre style de jeu grâce à la stat et muscler votre mental pour jouer aussi bien en match qu'à l'entraînement, vous avez deux bonus gratuits en description. On publiera jeudi un hors-série sur l'édition 2021 de l'Open 13, dont Jeff est directeur pour la 28e année consécutive. Il revient pour nous sur cette édition particulière sans public, mais en gardant intact la volonté de faire vivre le sport. Beau geste, Jeff. Sachez que vous devenez une légende dans notre cœur en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcasts, sur YouTube ou sur les deux. Ça nous aide comme jamais à faire connaître la chaîne. Et envoyez votre épisode préféré à un ami fan de tennis, le bouche à oreille marche à merveille. Place au 34e épisode avec notre Marseillais Jean-François Cojol. Bonne découverte et bonne écoute à tous.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Ouais, nickel. Plus que je réinstalle et là, on avait un call de l'ATP. Là.
Et alors, les nouvelles sont bonnes ?
C'était un call spécifique au 250.
D'accord.
Donc, ouais, ça va sur le pooling, notamment sur les droits télé. Pour tous les tournois. Et il a une approche qui est très, très média, puisqu'il a travaillé chez BWIN pendant 5 ans.
Qui ça ?
Ah oui. Andra Traudenti, le président de l'ATP.
Ouais.
Tu sais, c'est un ancien joueur.
Ouais.
Qui a été 25, 20, un truc comme ça, qui était assez bon. Après, il a fait des études d'avocat et ensuite, il a travaillé chez BWIN. Et il est donc chairman de l'ATP depuis janvier.
Yes.
Voilà. Ce qui a été un peu compliqué pour lui, puisqu'il s'est attrapé l'Australie d'abord et puis le Covid après.
Oh la vache, ouais, chaud. Chaud à gérer. Alors, j'ai une petite présentation sur toi, assez rapide, et puis après, on peut enquiller en deux parties. Une partie sur ta carrière de joueur et une autre sur ta reconversion comme directeur okay. de tournoi. Alors, c'est parti. Jean-François, t'as un surnom, Jean-François, ou pas ?
Jeff ? Cajot.
Cajot. Très bien.
Je viens de mon frère, hein. Mon frère est. Et c'est pas C-A-G-E-O-T, c'est C-A-J-O.
D'accord, c'est plus classe. Ouais, Alors, Cajot, du coup, tu es né le 31 mars 53 à Marseille. Tu es ancien joueur de tennis pro. Tu as été 59e mondial. J'ai trouvé 59e sur ta fiche de l'ATP. J'ai vu que tu disais 50. Où est-ce qu'on se situe ? Alors,
ouais, j'ai été. Justement, mon premier classement, j'ai été 52e quand l'ATP a commencé en 74.
D'accord.
Et j'ai été 51e juste avant Roland-Garros, justement, l'année. Et plusieurs fois, j'étais entre 50 et 55.
Okay.
Mais c'était des moments dans l'année, hein, parce qu'en fin de saison, je n'ai jamais été dans les 70 premiers, je pense.
OK.
Et j'ai une raison là-dessus, c'est parce que l'été, je ne supportais pas la chaleur. Ou peut-être je préférais la plage et la piscine. Je ne sais pas si c'était…
Soit l'un, soit l'autre.
Voilà, j'ai fait.
Tu as été numéro 2 français à ton meilleur en 77.
Numéro 4.
Ah, numéro 4, j'ai vu numéro ouais. 2, bah, tu vois.
Tu vois, donc voilà.
Heureusement que tu es là. Et actuel directeur de l'Open 13 de Marseille, que tu as créé en 93.
Oui.
Tu t'es aussi occupé des tournois de Bruxelles, de Nice, du Master BNP Paribas de Paris-Bercy. Jusqu'à aujourd'hui, au total, tu as eu la responsabilité de la direction de plus de 40 tournois.
Oui, parce qu'il y a eu Lyon aussi entre-temps avec Thierry Assion et Joe Tsonga.
Ok. En tant que joueur, tu as joué deux finales sur le circuit à Copenhague et Gstaad en Suisse. Tu as été 20 fois tableau final en Grand Chelem, dont 10 à Roland, où tu as joué 3 fois au troisième tour, dont une contre Guillermo Vilas et une autre contre Jimmy Connors. J'ai noté deux autres matchs marquants contre ce dernier Jimmy Connors en 80 à Monte Carlo, où tu le bats, il est numéro 2 mondial. Et un mois après, tu es à un cheveu de rééditer l'exploit à Roland en menant 2-7-0 et 5-2 au troisième. Et finalement, ouais, t'es battu en 5-7. Tu as aussi battu des gars comme Bjorn Borg, John McEnroe et Arthur Ashe. Tu pourras peut-être nous raconter en détail après. Tu dis qu'à l'époque, tu avais un côté un peu branleur. Tu remettais la faute sur tout sauf sur toi-même. Quand, par exemple, tu es resté en raquette en bois, petit ami, c'était un moyen de justifier des défaites ou une baisse de niveau. Bon, tu pourras aussi nous parler de tout ça. Tu te définis plus globalement comme un amoureux du tennis qui aujourd'hui crée des événements pour transmettre des émotions positives et délivrer du bonheur. Tu as été le premier ambassadeur de l'entreprise Major Sport, aujourd'hui Technifim, au début des années 80. Tu es papa de 3 filles, mais pour commencer, est-ce que tu peux nous dire le secret de ton brushing qui m'intrigue?
En fait, on est deux à avoir ce brushing. Il y a Raoult, je ne sais pas si tu as remarqué, il est à peu près le même, mais il a quelques centimètres de plus. Et puis, il est pas tout à fait aussi bien que le mien. Donc, voilà. C'est comme ça. J'ai toujours. Au départ, c'est par flemme, je pense, parce que ça me plaisait pas d'aller chez le coiffeur. Donc, et puis après, ça a poussé. Depuis que j'ai les cheveux blancs, c'est vrai que je les laisse beaucoup plus pousser que par le passé. Mais tu me diras, quand je jouais, j'étais frisé, brun, et j'avais un bandeau dans les cheveux, et j'avais les cheveux assez longs. Je rajoute juste un truc.
Ouais.
En fait, j'ai gagné un tournoi ATP.
D'accord.
Okay. La seule année où il n'a pas été ATP. C'est-à-dire que c'était le même format les années avant, les années après, mais il y a eu une année en 77 où il y avait les mêmes joueurs, le même tableau. Et en fait, je sais pas pourquoi il y avait eu un problème entre l'ATP et l'organisation de 2-3 tournois en Afrique. Il y avait Lagos qui était juste avant et il y avait ce tournoi. Et donc, l'année où je le gagne, il n'est pas ATP. Donc, je ne suis pas dans le livre des vainqueurs de tournois ATP.
Et donc, c'était où?
C'était au Caire, en Égypte.
D'accord. Voilà. Et donc, c'était un challenger quand tu l'as gagné?
Même pas. C'était un tableau, en fait, sur des tableaux qui étaient d'habitude de 32, là, il avait limité à 16. Ouais. Je crois que c'est pour cette raison qu'il n'y avait pas l'attribution des points ATP. Voilà, mais bon, sur les joueurs que j'ai battus, j'ai dû battre 2 ou 3 gars qui étaient dans le top 20 ou top 25, donc c'était le même niveau de tournoi.
Alors, pour revenir au démarrage, est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert le tennis et pourquoi tu as accroché particulièrement avec ce sport?
Bien, alors je l'ai découvert, je dirais par hasard. Le fait, c'est que mes parents ne jouaient pas du tout au tennis. Mon frère s'était mis au tennis dans le club municipal qui était pas très loin de chez nous, à une dizaine de minutes à pied. Et puis un jour, je l'ai accompagné. À l'époque, c'était un mercredi ou un jeudi. C'était le jeudi, je crois, où on n'avait pas cours l'après-midi. J'ai pris une raquette, j'ai joué au mur. J'ai trouvé ça super. J'ai passé 3 heures, 4 heures à jouer au mur. Mon frère est rentré à la maison tout seul. Je suis rentré plus tard et je continuais à taper la balle. Et voilà, ça m'a plu. Et le lendemain, j'étais en 6e à l'époque, hein, donc j'avais 10 ans et demi. Et je me souviens, le matin, je pleurais et je disais à ma mère, non, je ne veux pas aller à l'école, je veux aller taper contre le mur. Et je me suis mis à jouer et pendant un an, je n'ai pratiquement joué qu'avec le mur et avec le professeur qui me prenait gratuitement parce qu'il pensait que j'avais un talent. Qui était Joseph Stolpa, un ancien joueur de Coupe Davis hongrois, immigré, qui était venu en France et qui avait entraîné d'ailleurs Françoise Dürr, qui a gagné Roland-Garros en 1966 chez les femmes. Et voilà, et je suis tombé amoureux de ça. Et le mur, après, a été une passion. J'ai gagné tous les tournois du Grand Chelem plusieurs fois contre le mur.
Tu choisissais quel joueur quand tu jouais au mur?
J'adorais Roy Emerson. Donc, il y avait Emerson. Alors, je battais assez régulièrement Lever, Oswald, Odd, tous ces gars-là. C'était plutôt Emerson. Ouais.
Rapide pause dans l'oreillette. Emerson est un joueur de tennis professionnel australien né en 36,
Sa carrière a duré 30 ans, de 53 à 83. Le palmarès de Roy est monstrueux, 112 titres en simple et 64 finales en plus perdues. Il détient officiellement le record masculin de 28 titres du Grand Chelem remportés en simple et en double messieurs. Considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps, il est l'un des deux seuls tennismen avec Rod Laver à détenir au moins deux titres dans chaque tournoi du Grand Chelem et a longtemps détenu le record de 6 titres à l'Open d'Australie, appelé alors championnat d'Australie de tennis. Un record dépassé par Novak Djokovic en 2019. Il fut le premier joueur à atteindre 12 titres en Grand Chelem avant que Pete Sampras ne dépasse son record en 2000. Pistol culmine d'ailleurs à 14 majeurs. Précision importante, c'était avant le début de l'ère Open en 68, donc ces tournois étaient considérés comme amateurs. 8 fois vainqueur de la Coupe Davis, membre de l'International Tennis Hall of Fame depuis 82 à Newport aux États-Unis. On comprend mieux pourquoi Cageot était fan de cet ancien numéro mondial, doté d'une des meilleures volées de l'histoire du tennis.
Et le tournoi le plus prestigieux que tu gagnais à cette époque-là, c'était lequel ?
Ah, je gagnais tous les grands chelems.
Il n'y en avait pas un au-dessus, c'était pas
Roland. Non, c'était Wimbledon.
Ah ouais.
C'était Wimbledon.
Incroyable. Ouais. Et aujourd'hui, tu tapes encore la balle ?
Pas du tout. Ça fait, je pense, 25 ans que je n'ai pas tapé dans une balle.
Pour quelle raison ?
Écoute, alors, à un moment donné, je disais toujours, je ne suis pas passéiste, donc ce qui était avant, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est vrai que je n'ai pas l'impression d'avoir été joueur de tennis, j'ai l'impression que c'est une vie parallèle. Tu vois, c'est un peu. Et puis après, c'était surtout par rapport à deux éléments physiques. Alors que lorsque je jouais, je me blessais très très peu. Ensuite, quand j'ai arrêté de m'entraîner physiquement, notamment au niveau des étirements, des trucs comme ça, j'ai commencé à me blesser surtout aux ischio-jambiers, aux mollets, etc. Donc ça pétait assez souvent. Donc je ne forçais pas trop quand tu forces pas. Et puis après, la technique, elle était dépassée aussi. Donc, le physique ne suit pas, la technique est dépassée. Et ce qui me plaisait, c'était m'entraîner par rapport à un objectif précis. Là, je m'entraînais par rapport à rien puisque je régressais. Donc, je préfère toujours faire des sports où j'ai l'impression de pouvoir, ou des choses où j'ai l'impression de pouvoir progresser.
OK. Pour nous faire comprendre justement ta progression de l'époque, est-ce que tu peux nous rappeler étape par étape de non classé à numéro 4, du coup, chaque étape.
J'ai fait, alors sur les classements, j'ai fait non classé 30, 15, 0, moins 15.
Donc, pas de fioriture.
Je ne m'arrêtais pas dans les trucs intermédiaires. Et en fait, lorsque j'avais 12, 13 ans, je me faisais tordre par les gosses de mon âge. Il y en avait 3 ou 4 qui étaient beaucoup plus forts que moi et vraiment, je prenais des tolls assez régulièrement. Et puis, il y a eu un déclic à 14 ans où je me souviens, j'ai battu le joueur qui me mettait tout le temps des tolls, 6-1-6-1, 6-1-6-2. Je lui ai mis 6-1-6-1 en fin d'année et j'avais passé véritablement un cap. Et à partir donc de 15 ans, puisque j'ai été classé à 30, à 15 ans, c'est là où j'ai commencé à avoir un niveau non plus régional, mais national.
D'accord.
Et sur l'année d'après, lorsque je suis donc l'année où je suis à 30, je suis en demi-finale du championnat de France cadet. C'est la première fois que je sortais du sud. Je connaissais rien d'autre que mon quartier à Marseille. Marseille, je connaissais même pas tous les faubourgs ou quoi que ce soit. Donc aller à Paris, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Et je perds contre Denis Neijlen, qui était le grand favori, 6-4 au troisième en demi-finale. Voilà. Et puis à partir de là, ça s'est enchaîné beaucoup plus vite. Et l'année d'après, je suis à 15, je suis champion de France cadet. L'année d'après, je suis à 0, je suis champion de France junior. Et l'année d'après où je suis à moins 15, où je suis le super favori, et là, j'avais vraiment un cran, voire deux crans au-dessus des autres, je perds en finale contre Louis Borfiga, qui est aujourd'hui l'actuel entraîneur du Team Canada. Je perds en finale 6-1-6-0 en 32 minutes exactement, je m'en souviens. Lequel Louis Borfiga, j'ai rebattu 15 jours après 6-1-6-0 en Interligue. Et la raison, il faut que je la raconte parce qu'elle est anecdotique, mais l'anecdote a de l'importance. L'année où je gagne les cadets, je me souviens que Christian Kidet m'avait invité sur le sport du dimanche soir. Je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Ouais. Et on m'avait posé une question, qu'est-ce que tu attends du tennis ? Et puis j'avais répondu, je veux devenir professionnel. Bon, réponse un peu bateau, mais je ne savais pas quoi faire, quoi dire. Et lorsque je joue le matin contre Borfiga, donc cette finale des juniors, j'ai 18 ans, et je commençais à avoir de l'acné juvénile. qui est arrivé avec un peu de retard et je me suis dit, merde, pas question que je passe à la télé avec cette tête. Et donc inconsciemment, j'ai pris 606-0 en 32 minutes. La photo de la finale, j'embrasse presque Luigi Borfiga en lui disant, putain, tu m'as sauvé la vie, quoi. Je vais pas passer à la télé avec cette gueule-là, tu vois. Et en fait, il n'est pas passé à la télé le soir et ce n'était pas prévu. Donc, j'ai pris une tôle pour rien et pour un petit problème qui était un problème d'adolescent. Voilà.
Incroyable, incroyable parce que… Alors déjà, Luigi est passé sur le podcast et c'était un super épisode. Et l'anecdote des boutons, elle peut se retrouver même bien après chez les adultes où certains ont tellement peur de faire le discours que ça leur arrive de se planter en finale. Quoi. De peur de parler en anglais devant tout le monde, de passer pour un con.
Une rapide pause pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne YouTube et de récupérer les 7 conseils de préparateurs mentaux passés sur le podcast pour muscler votre mental en match et appréhender avec sérénité votre approche de ce sport qui parfois, avouons-le, nous rend fous. Le lien est juste en dessous en description.
Ça, c'est incroyable. Et du coup, donc ouais, progression fulgurante. Tu as fait un sport-études étant jeune tu rêvais
Non, pas du tout. Je suis resté à Marseille. J'avais un professeur qui était exceptionnel, qui n'était pas un entraîneur, qui était un professeur. Il y avait des joueurs du monde entier. Je me souviens que Gonzalez s'était arrêté une fois quand il avait joué à Marseille pour venir le voir. Il y avait Jaime Filiol qui était venu. Il a entraîné Balazs Taroksi qui venait régulièrement à Marseille aussi pour s'entraîner. C'était vraiment un esthète du tennis et un technicien hors pair. Et la relation que j'ai eue avec lui, c'était mon deuxième père, véritablement. Il me considérait véritablement comme le fils qu'il n'avait pas eu. Et moi, j'avais une passion pour lui, j'avais un amour pour lui, comme d'ailleurs j'avais pour mon père. Mais quand à 16 ans, 17 ans, on devient ado, souvent on devient un peu con. Et la relation conflictuelle que j'avais avec mon père, je l'ai eue aussi avec mon deuxième père, donc avec mon entraîneur. Ce qui fait que entre 17 et 19 ans, 17 ans et demi, 19 ans, j'ai perdu une année et demie parce que je suis resté à Marseille. J'aurais dû aller à Paris, m'entraîner dans les structures fédérales ou aller au Racing, comme le Racing me l'avait proposé, où il y avait tous les meilleurs joueurs qui s'entraînaient là-bas. Et je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas passé le cap par confort aussi. Donc, si tu veux, ces deux problèmes, à la fois celui des boutons ou quand tu disais on cherche à ne pas gagner. À un moment donné, inconsciemment, on ne gagne pas pour ne pas faire le discours. Ça s'est retrouvé plus tard dans ma carrière. Et ça, cette deuxième partie de confort aussi s'est retrouvée dans ma carrière par la suite. Ça m'a été préjudiciable.
C'était qui les gars du Racing à l'époque ?
Oh ben, il y avait Debiker, il y avait Tamam, il y avait Gauvin, il y avait Proisy, il y avait Geoffrey, donc il y avait les meilleurs. C'était ouais. Quelque part m'entraîner avec les meilleurs. Alors que moi, à 18 ans, j'écumais tous les tournois de la région. Je battais tout le monde, tous les moins 15 qui arrivaient. Voilà, je les battais. Donc, je m'entraînais avec un gars qui était à 4-6, qui venait me chercher le matin avant que j'aille au lycée, parce que j'allais toujours au lycée. Donc, à 5h30, il venait avec sa mobilette. Lui, n'allait plus à l'école. Il voulait devenir professeur de tennis. Et voilà. Et l'hiver, à 5h30, on était dans Marseille, dans le froid, avec le bonnet.
Sur la Peugeot 103.
Ouais, c'était le Peugeot 103, en effet. Et on allait courir un tout petit peu, une demi-heure, 40 minutes. Et puis après, quand il faisait l'année avancée, on pouvait taper pendant 20 minutes. Ensuite, je prenais mon petit-déj et puis il m'accompagnait au lycée pour que j'arrive à l'heure. Mais bon, je m'entraînais l'hiver. Il m'arrivait de ne m'entraîner qu'une fois par semaine parce que le temps ne le permettait pas, parce qu'il n'y avait pas de cours couverts. Donc, jusqu'à 18 ans, j'étais un amateur, véritablement. Et c'est pour ça qu'après, la transition dans le monde professionnel n'a pas été simple.
Est-ce que tu as joué les juniors déjà avant d'aller dans le monde professionnel ?
Oui, j'ai joué les juniors et j'avais des résultats qui étaient assez corrects. Donc, champion de France junior à 17 ans. Mon meilleur résultat en junior, c'est l'année où j'arrive en demi-finale des juniors alors que j'étais cadet deuxième année. Donc, j'étais à 15. Je venais de gagner le tournoi du William en battant du club où j'étais à Marseille en battant un joueur à moins 15 qui s'appelait Jean-Pierre Joly. Donc, j'étais à 15.
Belle perf.
Ouais, ouais. Et je joue à Roland-Garros et je bats Bertolucci qui était tête de série 1 et qui était l'équivalent d'un moins 15, je me souviens, et j'avais perdu contre Gardiner en demi-finale. Donc voilà, là, gagner ce match, j'étais à l'époque sur le court numéro 2, c'était le court numéro, ils appelaient ça le court numéro 1 à l'époque, c'était assez exceptionnel, quoi. En même temps, il y avait justement les Roches, Lever, Rosewall, c'était en 68, 69. Donc, 69 qui était sur le cours central. Donc,
Et quand tu as été champion de France junior, tu étais perçu comment il le voyait, le petit gars de Marseille, les gars de Jambouin, les gars de Paris
Bon, ça allait. J'avais une bonne relation avec mes copains en équipe de France junior. Ça a été des moments assez exceptionnels quand on faisait la tournée junior, la première où j'avais 16 ans. Donc, j'avais été pris en temps, j'étais cadet, j'étais le dernier de l'équipe. C'était des moments exceptionnels. Non, il n'y avait pas du tout de rivalité que l'on a pu retrouver entre l'OM et le PSG. Non, c'était
pas du tout. D'accord. Tu as joué les autres grands chelems en junior, l'Open d'Australie ?
Non, à l'époque, j'ai joué que Wimbledon en junior. Ouais. Et mon premier Wimbledon junior donc était aussi assez anecdotique puisque je devais passer le bac français. Ouais. Et donc, je me souviens, je vais voir mon père, je l'appelais Joe, mon père. Il s'appelait Georges, je l'appelais Joe, je lui dis Joe, j'ai un problème. Soit je passe le bac français où je vais avoir entre 0 et 2, soit je vais jouer les juniors à Wimbledon. Donc il me dit ok, tu vas jouer les juniors à Wimbledon. Et les juniors à Wimbledon, donc pareil, première fois que j'arrive, je me souviens, j'étais allé m'entraîner. Le soir, j'étais dans la voiture, donc il y avait mon entraîneur, Joseph Stolpa, et on était à côté de Ken Rosewall, qui était dans la voiture, donc que mon entraîneur connaissait un tout petit peu, et de se retrouver dans une Rolls-Royce, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des Rolls-Royce, et d'être à côté de Ken Rosewall, c'était quand même quelque chose d'assez hallucinant. Voilà. Et premier tour, je joue contre un joueur qui était la tête de série numéro 1, qui s'appelait Byron Bertram, qui n'a pas eu une bonne carrière chez les adultes très très courte, mais qui chez les juniors était très très fort, qui venait d'ailleurs de passer deux tours à Wimbledon dans le grand tableau en perdant contre John Alexander à accrocher. Et je prends 6-1, 6-0, mais j'étais ravi, j'étais aux anges. Et en même temps, sur le court numéro, je voyais les panneaux défiler et il y avait Newcombe qui jouait Emerson, mon idole. Et Emerson, lui aussi, avait perdu malheureusement. Donc, triste journée, je perds et Emerson perd contre John Newcombe en huitième de finale à Wimbledon.
Et quel équipement tu avais fourni les chaussures blanches à petit picot?
Alors, ça aussi, ça a été un drôle de... J'adorais jouer avec les Lacoste, pour moi, Lacoste. Et puis, je me souviens, il y avait Toto Brugnon, qui était un ancien mousquetaire, donc qui était un peu ambassadeur de Lacoste et qui voulait que je joue avec sa marque de chaussures et de vêtements à l'époque. Donc, je jouais avec ses vêtements. Et puis après, plus tard, quand Pierre Darmon a lancé sa marque, il a voulu que je joue avec sa marque, qui n'était pas du tout aussi belle, et ça me frustrait énormément de jouer avec sa marque parce que l'esthétisme dans le tennis a toujours été important pour moi. Et rentrer avec les chemises en éponge Trévois, je crois que c'était le nom de la marque, ça ne m'allait pas du tout. Ça me gênait énormément.
Tu te souviens ce que tu as ressenti en rentrant pour la première fois dans cet écrin de verdure, toi qui en rêvais quand tu jouais au mur?
Ah oui, c'était hallucinant parce que les courses, j'avais l'impression de jouer sur un tapis, me retrouver dans cet univers. Mais au-delà de, j'étais spectateur, j'étais pas partie prenante, j'étais pas acteur. Je joue contre Byron Bertram, je suis pas acteur. J'y suis, j'en rêve, je vois le truc, c'est beau. Mais mon match en lui-même, il représente rien. Je voulais aller voir sur le central jouer les grands, quoi. Je voulais être à côté d'eux, mais. Moi, mon jeu, là, la première année, je suis pas là, quoi.
D'accord.
Je vis l'événement en ayant les yeux écarquillés. Je regarde sans arrêt à gauche, à droite, en l'air, en dessous, mais surtout pas mon tennis.
Et du coup, tu as fini par avoir le bac ou jamais de la vie?
Ah non, non, non. Le bac, je suis pas allé. Et là aussi, ça a été la décision. Elle s'est faite juste à mon retour de l'Orange Bowl. Alors, j'avais deux choses. L'Orange Bowl, quand je le joue à 16 ans, je suis inconnu, je ne suis même pas tête de série, j'arrive en finale des cadets. Il n'y avait pas les meilleurs, il y avait certains Américains, mais il n'y avait pas tous les meilleurs. Et j'arrive en finale, donc un peu étonnamment. Et je me souviens, quand je rentre de l'Orange Bowl, ma prof de français, qui ne m'aimait pas particulièrement, elle m'interroge donc, le jour où je rentre au lycée. Et bien sûr, je ne sais pas. Et puis, elle me dit... Kojol, vous serez toujours un imbécile parce que le sport, ça mène à rien. Voilà ce qu'elle me dit. Ça m'a marqué. Et en même temps, à Miami, ce qui m'avait marqué, c'est que la famille dans laquelle je logeais, qui était un avocat assez connu, qui avait un gros cabinet à Miami, le soir, juste avant la finale, il me dit, tu sais, tu es quelqu'un d'important parce que tu vas être ou premier ou deuxième du monde, il me dit. C'est comme le premier ou le deuxième chercheur, c'est comme le premier ou le deuxième entrepreneur. Voilà, tu es ça. Et il m'avait dit une autre chose. Il me dit, parce qu'il m'avait fait conduire sa voiture qui était une Thunderbird, super. Il me dit, elle te plaît cette voiture? Je lui dis, oui, elle est super. Et il me dit, ben, l'année prochaine, quand tu vas revenir, parce qu'on revenait toujours les Français dans la même famille, ben, je l'aurais plus parce que mes voisins auront l'impression que ma société va mal si je n'ai pas changé de voiture. Donc, il y avait le bon côté des États-Unis et le mauvais côté. C'est-à-dire, le bon côté, c'est que ben, qui que tu sois, quand tu réussis, tu as réussi et tu es respecté par rapport à ça. Mais d'autre part, ta réussite, tu dois la montrer, quoi. C'est pas… Voilà.
Ah, c'est incroyable.
Et quand je retourne l'année d'après Miami, le Orange Bowl, je repère contre Byron Bertram en huitième de finale, un match accroché. Il était tête de série 1. Et l'année d'après où je suis tête de série, un voyage. Mais alors, Luigi Borfiga, il aurait pu te le raconter, ce voyage. On part. Il y a trois minutes, mais il faut que je le raconte parce que c'est un truc assez
étonnant. Avec plaisir.
Donc, on part avec notre entraîneur Joseph Stolpa, donc il y a 70 ans. Hongrois très sélect, famille bourgeoise hongroise qui est partie en 56 quand les Russes sont rentrés parce que son père était ministre. Beaucoup de culture. Donc, et on se retrouve à l'aéroport et au moment de partir, trop de brouillard. Donc c'était en 69, 70, je ne sais plus très bien, 70. Trop de brouillard. Et on nous dit malgré tout que nous, on va partir. Et on va partir avec 450 GIs qui rentraient du Vietnam. Donc, okay. Il y a un avion spécial parce qu'ils ne peuvent pas garder les GIs. Donc, on part du Bourget. L'aéroport, il n'y avait qu'Orly et le Bourget à l'époque, hein, et que Orly pour les vols internationaux. Donc, on fait notre trajet en bus. On arrive au Bourget. Donc, on monte dans le 747. On commence à rouler. Et au moment, mi-chemin, un moteur qui explose. Donc, on arrête. Le commandant nous dit, bon, on va réparer. Il y a le moteur numéro 1. Enfin, on avait entendu une petite déflagration, pas très forte, mais il nous dit, moteur numéro 1 en panne. On va réparer sur place. L'aéroport est fermé. Donc, il commence à servir à boire aux GIs et à manger. Au bout de 4h30, 5h, on se retrouve, donc, prêt à partir. Il dit, bon, décollage, etc. Et hop, même problème. Au même endroit, moteur numéro 2 en panne. Et on reste encore 4 heures de plus. Donc, et là, on sert toujours à boire. Et au bout de 8 heures, tu peux imaginer 450 GIs qui reviennent du Vietnam, ivres morts, qui se suspendaient dans l'avion, au porte-bagages, qui cassaient les porte-bagages, qui tombent sur Stolpa, qui en plus avait un début de grippe, un malabar qui lui tombe dessus. Et donc, bon, on finit par décoller. On arrive à New York. Bien sûr, on avait loupé nos correspondances. On dort dans Kennedy. On avait deux avions séparés, notre coach et puis Luigi et moi. On arrive sur Miami et 2 heures après notre atterrissage, typhon sur Miami. Donc, pendant 2 jours et demi, on reste enfermé dans la maison avec des vents à 250 km/h.
Wow.
On ne peut pas s'entraîner.
Ouais.
Et arrive une journée, bah, quand le typhon, au bout donc de 4 jours, tout est rétabli, on doit tout de suite attaquer les matchs. Je joue le matin, donc tête de série numéro 8. J'étais parmi plutôt les favoris. Je fais un match minable que je gagne difficilement, mais je le gagne. Et l'après-midi, je me souviens, je joue un gars qui s'appelait Globuche. un gars qui était du coin, et je perds lamentablement. Sur ce match, je me souviens, mon entraîneur Stolpa, qui avait toujours une petite mallette, il jette la mallette de dépit. On rentre le soir avec Luigi et on s'amuse sous la douche. Et la douche avait une petite paroi qui était en plexi et verre. Et il glisse, il tombe et il se coupe la main et un tendon de la main.
Ah, oui.
On passe la nuit aux urgences, il est opéré sur place et on rentre le lendemain en France. Donc, le voyage catastrophe, quoi. Donc, Luigi ne peut pas jouer, etc. On devait faire après la Sunshine Cup qui était par équipe et ensuite, on devait aller au Costa Rica. Donc, voilà. Celui-là, je pense que ça fait partie des anecdotes pour Luigi, s'il s'en souvient. Ils sont assez,
Heureusement que tu es là parce qu'il ne l'a pas raconté. Et du coup, voilà. Le père de famille, l'année d'après, il avait quoi comme bagnole?
Alors, le père de famille, ben, il avait toujours la même. C'est ça qui est étonnant. Je ne lui ai pas dit. Il avait toujours la même. Mais non. Attends, je te dis des bêtises. Parce que oui, la première année, il avait toujours la même, en effet. Et je suis retourné les voir 20 ans plus tard. Là, je t'assure, il n'avait plus la même.
Bon, d'accord. À quel moment tu es parti de Marseille pour une structure d'entraînement, pour devenir pro? Comment tout ça s'est dessiné?
J'ai jamais adhéré à une structure autre que celle de Marseille. En fait, je suis parti à 21 ans. Alors oui, je m'entraînais à Marseille, mais je m'entraînais aussi avec Georges Genion très souvent.
Ok.
Quand je le pouvais, il avait une structure qui n'était pas tout à fait établie, pas reconnue par la fédération. C'était assez compliqué parce que Jean-Paul Lotte, qui était le directeur technique national, avait une relation assez conflictuelle avec Georges Denion. Et quand nous, on était plusieurs joueurs, dont Georges Gauven, Éric Debliquer, Jean-Louis Hayet et moi, et qu'on avait demandé à pouvoir s'entraîner à Roland-Garros avec Georges, eh bien Jean-Paul Lotte avait refusé. Donc, on allait s'entraîner à Poissy, je me souviens, c'était à 50 km de Paris. Il fallait y être à 8 heures du matin. C'était pas facile pour joindre Poissy et être à 8 heures du matin, donc on partait tôt. Parce qu'on avait un créneau horaire qui n'était pas… Je crois que c'était le club d'Éric Lollier, je me souviens.
Donc, c'était une structure privée, payante.
Exactement. Et on s'entraînait aussi à Saussure, sur les cours couverts qu'il y avait dans le 17e arrondissement. Voilà. Donc, je dirais que bon, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir eu une structure. C'est de ne pas avoir eu un gars qui me botte les fesses le matin. Quand je m'entraînais avec Georges, j'adorais ça et il était toujours justement sur nos fesses et il nous poussait. Et j'aurais aimé avoir la possibilité ou logistique ou la possibilité financière d'avoir un gars comme Georges qui soit derrière moi. Parce que mon professeur, Stolpa, c'était un professeur. Georges était un entraîneur. Ce n'était pas un professeur, c'était un entraîneur.
Et pourquoi pas être allé à la Fédé?
Parce qu'à la Fédé, c'était assez flou. Et puis, j'avais un peu des relations un peu tendues avec tout le monde. Donc, non, mais c'était assez flou. Et puis, François Geoffrey s'entraînait de son côté. Il avait son préparateur physique. Il avait sa manière de s'entraîner. Patrice Dominguez s'entraînait aussi de son côté. Donc, il n'y avait pas véritablement un groupe. Le groupe, il s'est formé ensuite quand il y a eu les Noah, Porte, ces joueurs-là. Avec Patrice Ajelauer, c'est là où le groupe s'est véritablement formé. Mais avant ça, il n'y avait pas de session d'entraînement qui était régulée par la fédération.
D'accord.
On était livrés à nous-mêmes. Donc, mon pote, c'était Jean-Louis Hayet. Je m'entraînais beaucoup avec Jean-Louis. Puis voilà, il y avait Georges Gauven, Éric Debliquer. Voilà, c'était des gars avec qui j'étais assez régulièrement.
Ton tout premier point ATP, tu te souviens où c'était et dans quelles circonstances?
Alors, je pense que c'était celui-là, le tout premier. C'était dans un tournoi au Pakistan, à Lahore.
D'accord.
Là, il faut le vivre. Hein.
Ah ouais, j'imagine.
Il faut le vivre. C'est un endroit merveilleux. Donc, c'était en 73. Je suis invité à la place de Bill Ngodrella. C'était la place de Bill. Il y avait Jean-Louis Hayet et moi. Donc, par un Pakistanais qui s'appelait Arun Rahim, qui vivait aux États-Unis, qui était un bon joueur, ami de Bill Ngodrella. Et il nous dit à Jean-Louis, à moi, vous voulez y aller? Moi, je ne peux pas y aller, donc Jean-François, tu prends ma place. Il y avait une exhibition d'abord à Karachi, assez étonnante. Quand on arrive au stade des demi-finales, il nous réunit les quatre joueurs que l'on était. Il restait un joueur qui s'appelle Milan Lechek, un Tchèque, Jean-Louis Hayet qui avait battu Stilwell. Il y avait Raoun Rahim et moi. Et il nous dit, voilà, les gars, je vous ai invités, mais il faut me laisser gagner. Pour moi, c'est important parce que derrière, j'ai un poste qui m'attend à la PIA, qui était la Pakistan International Airlines. Et je me retrouve, donc on jouait dans un club traditionnel anglais. Donc, je gagne la demi-finale. Rahim gagne sa demi-finale contre Jean-Louis. Je me retrouve en finale contre lui dans un stade où il y avait 10 000 personnes qui hurlaient, qui n'avaient jamais vu de tennis, à mon avis, de leur vie. Hein. Et là, je me retrouve au troisième set. Je mène avec un break et puis je dois le laisser gagner. Mais pour le laisser gagner, alors que le gars était 30e mondial, très, très bon joueur, et ben, il fallait que je fasse des doubles fautes. Et donc, il prend les devants. Je perds mes deux jeux de service. Il mène 5-4. il sert trois doubles fautes, il perd le jeu parce que j'avais même pas poussé la balle. 5-5, 6-5, 7-6. Et puis à la fin, bon, je balance encore mon jeu de service et puis il arrive à gagner. Donc je perds 9-7 au troisième. Et la semaine d'après, on se retrouve donc à Lahore sur herbe. En fait, c'était une herbe qui était grise. C'était pas comme en Inde de la bouse de vache séchée, parce qu'en Inde, à Bombay, j'ai joué là-dessus sur un tournoi ATP. Ça ressemblait un tout petit peu, mais enfin bon. Et c'était un tournoi meilleur des 5-7. Premier tour, je joue un local. Donc, imagine à Lahore, un local, le niveau, c'était un bon non classé, voire 34-33. Donc, pas longtemps. Deuxième tour, je bats, je sais plus qui, je bats. Bon, je me retrouve en demi-finale contre un joueur qui s'appelle Hans Kary, un Autrichien assez bon, un voyou de première que j'ai joué à plusieurs reprises, notamment que j'avais battu au Caire en quart de finale. Assez bon joueur, hein, qui a dû être 20e, 18e, 15e, un truc comme ça. Et on se retrouve à 6 partout au 5e set. Ouais. Et là, je mène 4-2 dans le tie-break. Il sort du cours, il appelle le juge-arbitre. Il dit, est-ce qu'il y a un tie-break ? Le juge-arbitre lui dit non. Donc, il revient, il me dit, bon, on reprend. Alors qu'en fait, les points acquis, les points joués étaient acquis. J'aurais dû mener 7-6.
Okay.
Et je perds mon service. Et derrière, je mène 0-40. Si je perds le match, je perds 8-6. Donc, voilà mes premiers points ATP, mon premier tournoi.
Mais c'était quoi comme catégorie de tournoi ?
Non, c'était un challenger, l'équivalent. À l'époque, c'était un 25 000 $. Donc, un 25 000 $, il faut savoir que les 50 000 $ qu'il y avait à Nice, dans les 50 000, il y avait Villas, où il pouvait y avoir Borg, il y avait Panatta.
Il n'y avait pas de satellite encore ?
Non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de satellite. Donc, je n'ai pas connu les satellites.
Et pourquoi être parti si loin au Pakistan pour les premiers ? Et avec quelles ressources financières tu partais ?
Ben, là, j'étais invité. J'étais invité. Donc, c'est le dénommé Arun Rahim qui nous avait invité, qui avait invité Bill Gorilla, qui faisait sa exhibition. Et derrière, il y avait ce tournoi-là.
D'accord.
Donc, il y avait 4-5 joueurs qui valaient le coup. Et là aussi, il y a une anecdote assez étonnante. Avec Jean-Louis, on gagne notre premier tournoi de double et le seul que j'ai pu gagner. Donc, à Lahore, en demi-finale, on joue deux joueurs anglais qui s'appelaient Warboys et Farrell. À Lahore, à cette période de l'année, il fait relativement chaud. Il devait faire 35 degrés. Temps super. Et puis, on joue contre eux en double. Pas sur le central, le court numéro 1. Et ils avaient deux thermos. Et puis, on les voyait. Et puis, chaque fois, ils nous disaient, si vous voulez boire, on a un thermos. OK, avec Jean-Louis, on se dit, non, ça va, on a d'autres boissons. Et puis, vers la fin du premier set, je vois le gars, il commence à servir sur le terrain à côté. Et là, avec Jean-Louis, on se regarde, on se dit, ah, c'est bizarre. Puis, il rigolait sans arrêt. On gagne le set, 6-4. Et puis, au deuxième set, le mec, il sert carrément derrière. Et en fait, dans le thermos, ils avaient du whisky. Ils étaient ivres morts. Ils ont pris un an de suspension chacun, hein, faut le savoir.
Ah ouais.
6-4, 6-0. Warboys, Farrell, un an de suspension au tournoi de Lahore contre Aye Kojo. Voilà. Donc, c'était mon premier tournoi ATP. Voilà.
Incroyable.
Le véritable tournoi ATP où j'ai marqué des points à la fois en simple et en double.
Mais quand on voit les joueurs qui se lancent sur le circuit, qui galèrent comme jamais, toi, tu étais invité, logé comme un prince.
Non, logé comme un prince, si tu veux, des anecdotes. Là aussi, je te prends l'Australie et toujours avec mon ami Aye, quand on arrive dans le tournoi, c'était, si je ne me trompe pas, à Brisbane où on dort dans un YMCA et il y a un mec à côté de nous qui est en train de faire une overdose qui est enlevé par le SAMU. Là, nous, on se casse avec nos valises dans la nuit. On va sonner à la porte du directeur du tournoi. On avait son adresse. Il a dit OK. La nuit, on passe chez lui. Le lendemain, il a dit, je vais vous trouver une famille pour que vous puissiez dormir. On va dans la famille où il y avait déjà un joueur qui était Denis Neijlen. Et là, on tire au sort parce qu'il n'y avait qu'une chambre. C'était une chambre ou le garage. Donc, avec Jean-Louis, on perd, on dort dans le garage. Et dans le garage, il y avait deux lits. Mais deux lits qui étaient des lits de camp. Hein. Un double et un simple. Et on changeait toutes les nuits, Jean-Louis et moi, entre le lit de camp. C'était à Adélaïde. On changeait entre le lit de camp et le double et le simple. Et il y avait une Volkswagen qui était à côté, jaune, je m'en souviens, et qui partait tous les matins à 7 heures. Donc, pour te dire les conditions, si on était dans de bonnes conditions, et là, il fallait
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Il fallait se payer notre voyage, il fallait se payer notre bouffe, il fallait tout faire. Donc,
c'était tes parents à l'époque qui t'aidaient ou tu avais les matchs par équipe aussi?
C'était mes parents. Alors, quand on arrivait dans des tournois comme ça, si tu veux, alors je te dis, tout payé, non, on logeait dans des familles. La bouffe, ça coûtait pas très cher. Voilà, mais le voyage, on le payait. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué. Mais les conditions, non. Mais sur le circuit ATP, même jusqu'en 76, aux États-Unis, on logeait dans des familles. Hein. Mmh. 75, on logeait dans des familles. Mais même des joueurs comme Connor, c'est des gars comme ça. Hein.
Ça passe, non, parce qu'il y a la bonne franquette.
Louisville, je me souviens, j'étais dans des familles et j'appréciais ça, Philadelphie.
Aujourd'hui, il y a à peu près 1500 mecs à l'ATP. Toi, à ton époque, à ce moment-là, vous étiez quoi, 400-500?
Oh non, même pas. On devait être 150.
Ah ouais. Donc à tes premiers classements, tu as été top 200, quoi.
Ah oui, je te dis, premier classement que j'ai vu, je me souviens, c'était au tournoi de Munich. C'était donc en 74. Je vois mon nom, j'étais classé 52e. Il y avait 100 mecs classés, pas plus. Mais si tu veux, le peu de fois où j'ai joué, quand je jouais un joueur qui sortait des qualifications, jusqu'à l'époque où il y a eu, je me souviens, José Luis Clerc, des gars comme ça qui ont commencé à émerger, sortir des qualifs, je ne perdais pas plus de deux jeux. Ce n'était pas possible de perdre contre un joueur qui sortait des qualifs. Le niveau était tellement différent entre
D'accord.
nous. Il n'y avait pas de possibilité.
C'était quoi ton... Toi, tu es gaucher, hein, c'est bien ça?
Ouais.
Tu avais un revers à deux ou une main?
J'avais un revers à une main. On avait tous des revers à une main. L'avènement Borg, ça a été le premier sur le circuit, véritablement, avec le revers à deux mains. Avant, il y avait un gars qui s'appelait Beppe Merlo, un Italien, qui était ambidextre.
Et ton style de jeu, c'était quoi?
Drysdale. Bah, écoute... C'était un peu comme je suis dans la vie, c'est-à-dire il y avait des jours où je pouvais faire service volé, mais en général j'avais plutôt un jeu basé sur la tactique, plutôt j'étais plutôt dans une recherche esthétique que véritablement de gagner. Et puis il y avait des jours, je te dis, je faisais service volé, il y avait des jours où j'arrivais pas à avancer du tout, des jours où j'étais dynamique, très 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 compliqué à gérer déjà.
Et physiquement, tu t'entraînais comme une brute ou pas du tout?
Non, j'ai eu des périodes où je me suis beaucoup entraîné, mais je m'entraînais sur des périodes courtes. J'avais beaucoup de difficultés à supporter la chaleur. Alors, peut-être parce que je ne m'entraînais pas assez dans ces conditions aussi, hein. Mais je ne transpire pratiquement pas, ce qui fait que quand les chaleurs sont très élevées, j'ai un sentiment d'étouffement. Donc, les États-Unis l'été, j'avais beaucoup de mal. Quand la température, tu vois, approchait les 40 degrés avec l'humidité, j'étouffais sur le court. Donc, c'était aussi, j'aurais dû me préparer, peut-être mieux que ça, parce que je pense qu'avec la préparation, tu arrives à encaisser beaucoup de choses et à supporter beaucoup de choses. Mais je n'étais pas prêt à faire mentalement, à faire l'effort. Et comme je dis, je viens quand même jusqu'à 18 ans, je vivais comme tous les élèves, c'est-à-dire j'allais au lycée, ouais. J'ai arrêté donc en janvier de l'année du bac. Parce que quand je suis revenu de Miami, de ce voyage épique, j'ai dit à mon père, j'ai dit, voilà, si je continue à faire semblant d'aller à l'école, je n'arriverai pas à progresser au tennis. Donc, je ne peux pas être bon joueur en jouant une fois par semaine ouais. et en me levant le matin à 5h30 pour aller faire un footing. Ouais. Donc, ce n'est pas possible. Donc, voilà, j'ai arrêté les études en janvier de mon année du bac. Donc, j'avais 18 ans.
Et donc, comme tu dis qu'à ton premier classement, tu as été top 100 direct, il n'y avait pas cette barrière psychologique du top 100 dans laquelle on gagne sa vie à cette époque-là? C'était quoi le…
Non, il n'y avait pas. Et si tu veux, j'ai eu un blocage à moins 15 parce que je suis resté à Marseille alors que j'aurais dû me frotter à des joueurs plus forts que moi. Mais ça me plaisait aussi de mettre des tôles à tout le monde. Donc, c'est là où je te dis le confort. Et puis après, tout s'est fait naturellement. C'est-à-dire que pour moi, les choses… J'ai jamais eu de plan de carrière, j'ai jamais eu de en me mettant des objectifs, ce que j'aurais dû peut-être faire, mais à partir du moment où tu te mets des objectifs, tu dois les tenir ou essayer de les tenir et faire en sorte de les tenir. Là, j'ai toujours laissé les choses se défiler, si tu veux. Voilà. Et je me souviens de certaines victoires qui m'ont marqué, des passages où je bats à Monaco, alors que je ne jouais pas très bien. Il y avait deux tournois. Il y avait le TC Monaco. Je bats un joueur qui s'appelait Ivan Chik, qui était beaucoup plus fort que moi. Et je le bats dans un jour où il y avait du vent. Il ne joue pas bien. Mais je me dis, tiens, je ne peux pas te démettre comme ça. Et ça s'est fait assez naturellement. Et après, pareil, quand j'étais fin de première série, j'avais de bons résultats, tu vois. Et puis, je fais un tournoi à Toulouse. Je joue Pilic, qui venait de faire finale à Roland-Garros, qui était 11e mondial. Et je fais un super match. Je bats Pilic en sortant des qualifications, là, à l'époque. Voilà. Et je perds en demi-finale contre le dénommé Hans Kari, que j'ai rebattu au Caire et contre qui j'avais perdu à Lahore, 7-5 au troisième en faisant un super match. Voilà. Et là, je me dis, je bats le numéro 11 mondial, je perds 7-5 au troisième contre le 25e. J'avais battu un Américain avant qui avait un niveau de 50e mondial, alors que moi, j'étais à cette époque-là. C'était juste après Lahore, ça, c'était l'année d'après. C'était 6 mois après. Donc, c'est là où véritablement ça commence. Enfin, il y avait des points ATP et je marque des gros points. Et...
Si tu devais coacher le Jean-François de l'époque en termes d'objectifs, tu lui dirais quoi pour se faire violence un peu ?
Simplement lui mettre un cadre. Et je respecte, je suis vachement respectueux. Ce que j'ai eu quand justement j'ai arrêté, avant d'arrêter l'école, je me levais j'ai fait 2 années et demie où je me levais le matin à 5h30.
Hein. Ouais, tu étais quand même déterminé. Ouais.
Voilà, j'étais déterminé. Et puis. Il y avait une éclaircie de 10 minutes, je sautais le grillage de la copropriété où je vivais, j'allais taper contre le mur. S'il y avait une heure, je prenais n'importe qui, je jouais avec n'importe qui. Donc voilà, j'étais un fou. Et puis quand j'arrête l'école, j'avais plus aucune contrainte. Donc gérer son temps, ça devenait très très compliqué pour moi parce que je reportais tout le temps. Où je faisais pas quand il fallait, où j'avais toujours un peu, voilà. Et puis le confort, je m'entraînais avec mon ami qui était à 4-6, moi j'étais en première série, voilà, c'était presque mon boy, il m'accompagnait, il faisait les trucs, mais je me faisais pas mal, je n'allais pas me confronter à plus fort que moi, et voilà. Et ça m'a manqué, donc. Et quand j'aurais aimé avoir donc un mec qui soit là le matin. Ils me disent, allez, j'ai réservé le cours à telle heure. Combien de fois je suis arrivé dans des tournois, dans la nuit, la veille, j'avais pas d'endroit pour dormir, j'ai dormi dans la voiture, alors que le lendemain, je jouais dans un tournoi ATP et que j'étais 60e mondial. J'oubliais mes raquettes, j'avais les chaussures trouées, enfin, j'ai fait des trucs mais qui sont honteux.
Et tu as ressenti quoi quand même quand tu es monté 4e français? Tu te dis, putain, il n'y a que 3 mecs en France qui sont devant moi. T'as l'impression.
Ouais, alors, si tu veux. Quand je jouais contre le mur, pour moi, être numéro 1 français, c'était la rigolade. Donc, on m'aurait dit à 16 ans, tu vas être numéro 1 français, j'aurais éclaté de rire. J'ai dit, non, mais je vais être numéro 1 mondial, je ne vais pas être numéro 1 français. Donc, arrêtez vos conneries. Après, sincèrement, il y a eu Geoffrey qui a été un peu plus fort à un moment. Mais après, avec Proisy, Dominguez, on avait le même niveau international. Patrick avait été plus fort avant. Goven avait été plus fort avant. À une époque où c'était aussi un peu plus facile, par exemple à Roland-Garros, de passer 2-3 tours, parce qu'on jouait des joueurs qui jouaient moins 15, pas plus. Première année où je joue Roland-Garros, quand j'ai 16 ans, justement, je suis à 0, j'ai 17 ans, je me qualifie. Bon, un mec à 0, il ne se qualifie pas à Roland-Garros aujourd'hui. Il faut jouer un sacré niveau. Hein. Donc, et j'aurais pu passer 2 tours. Bon, je perds. Voilà. Donc, tout ça pour te dire quoi ?
Je sais plus. Non, la question, c'était ce que tu ressentais quand tu as été 4e français, mais toi, tu
rêvais. Ah, donc 4e français, si tu veux, l'année où je gagne le national, c'est une année où je n'ai pas joué. J'ai été malade toute l'année. Mais suite à une problématique qui était ma relation avec Jean-Paul Lhote, et qui n'avait pas été réglo et j'ai fait une dépression en fait, ou l'équivalent. Donc, pendant 7-8 mois, je ne joue pas. Je descends à 62 kilos, tu vois, pour 1m86, pour un sportif, ça ne faisait pas gros. Je suis mal et ce n'était pas quelque chose qui était médical. Ce n'était pas quelque chose qui était ni une maladie, ni un virus, ni quoi que ce soit. C'était vraiment psychologique, une dépression. Et je sors et je m'inscris au national. Dorfman m'appelle, il me dit « JF, tu vas faire le national ». Et puis, je lui dis « Écoute, inscris-moi toujours et puis on verra ». C'était quelques semaines avant et je joue le national et je gagne le national. Et à partir de là, si tu veux, et là cette année-là, je suis classé 6e français. Si j'avais fait les mêmes saisons qu'avant, j'aurais été numéro 1. Donc… parce que le national avait beaucoup d'importance. Comme on n'était pas suffisamment fort au niveau international, on était, à part Geoffrey qui était 25e, 28e, les autres, on était 50e, 60e. Donc, le national avait beaucoup d'importance. Et le national, à part une année où je fais demi contre Geoffrey, c'est peut-être cette année-là où je suis 4, j'ai été plusieurs fois 4, j'aurais pu être numéro 2, 3 années, véritablement. Je pouvais être numéro 2 ex aequo avec Patrick Croisy, avec… avec Dominguez derrière Jo. Là, si tu veux, je pense véritablement que le fait d'avoir été Marseillais, parce qu'il y avait un système de classement qui était fait par des Parisiens essentiellement, l'ancien président du Racing, et donc on favorisait un tout petit peu malgré tout les membres du Racing. Je fais pas la théorie du complot, je suis pas du tout là-dedans, mais j'aurais été Parisien, j'aurais été numéro 2 3 ou 4 fois. Ouais. Voilà.
Dans ta présentation, je parlais de la victoire contre Connors et les autres contre Borg, McEnroe, Ash. Lesquels tu pourrais nous faire vivre qui te, émotionnellement, auquel tu es le plus attaché?
Émotionnellement, le plus attaché, c'est ma défaite contre Connors.
À Roland?
C'est celle-là. Ouais, à Roland. Parce que là, elle a toute une histoire.
C'est passé quoi à 5-2 au troisième? C'est quoi cette histoire?
Si tu veux, il faut faire un tout petit peu la genèse en fait du truc. C'est que d'abord je joue à Wimbledon où j'étais bien. Roland Garros, j'avais battu Brian Teacher qui a gagné l'Open d'Australie. Je fais un beau match, je perds contre Harold Solomon au troisième tour. Voilà, à Rome, j'avais battu Franulovic, j'avais battu Guiras. Bon, je battais des mecs. Et donc Wimbledon, c'est un ami journaliste marseillais qui m'appelle, qui me dit. Il y a le tableau de Wimbledon, tu joues contre Connors. Je me dis, c'est bien parce que peut-être je vais goûter au central.
Ouais.
Après, je me dis, merde, jouer Connors à Wimbledon en première semaine.
Mais Wimbledon, c'est après Roland.
Ouais, c'est après Roland.
Mais on ne parlait pas du match à Roland 5-7.
C'est la genèse avant.
Ah, d'accord. Donc l'année d'avant.
Et voilà, et j'arrive la veille au soir avec Yannick, on arrive à 11h du soir à Londres, donc tu vois, on n'était pas très très pro, on s'entraîne le lendemain matin au Queen's sur bois, à côté de McEnroe, Gene Mayer qui faisait que des services, bon, et puis on joue j'attends l'après-midi, mais je me dis, bon, ça va aller vite, quoi. On joue sur le court numéro 1, tard le soir, je me prends 4 tours dans la gueule au premier jeu. En faisant service volé, je me dis, putain, ça va être dur. 2-0. Mon jeu de service, encore 2 ou 3 retours gagnants, une faute, jeu blanc. Ouf. Et puis à 4-0, je me dis, mais si je continue à faire service volé, je vais me prendre 3 fois 6-0.
Ouais.
Et là, je me mets du fond du cours. Et quelques semaines avant, sur Herbe, l'année d'avant, j'avais battu Vijaya Mitrage en ne montant pas au filet. Je me dis, tiens, si je ne montais pas au filet. Et le match s'équilibre. Je perds le premier set, je gagne le second, j'ai balle de 7 au troisième. Je perds au tie-break. Le juge arbitre vient me voir, il me dit, Jean-François, je le connaissais bien, il me dit, demain, tu pourras aller dans le vestiaire des grands, parce qu'il y avait le vestiaire des aristos et le vestiaire de la plèbe.
Ah ouais.
Donc, il n'y avait que les têtes de série et certains qui jouaient sur le central, mais je jouais sur le 1. Il m'a dit, tu viendras dans le central. Et le lendemain, je perds avec un break, en jouant bien, mais voilà, match accroché. Et avec une tactique assez particulière, en restant au fond du court. Et d'ailleurs, que je n'ai pas tenu jusqu'à la fin, parce qu'au quatrième set, je perds mon service. Parce que je servais bien là, et un peu bêtement, j'ai pas continué ma tactique. Je le joue à Monte-Carlo de cette manière, en faisant balle flottante sur le coup droit, je le bats. Il arrive à Roland-Garros, il avait été banni pendant 5 ans pour avoir joué la World Team, la WTT, banni par Roland Garros, ne voulait pas le voir. Donc, il arrive en Orly, il est interrogé, conférence de presse, et puis un journaliste lui dit, bon, bah, voilà, Jimmy, c'est ton grand retour à Roland Garros depuis 73, je crois qu'il avait joué une fois. Qu'est-ce que tu attends de Roland Garros? Il dit, jouer Cojol. Et là, il y a un journaliste japonais qui lui dit, mais qui c'est Cojol? Il n'a pas dit, c'est l'enfoiré qui m'a battu à Monte-Carlo, mais il a pensé, il a dit, c'est le mec qui m'a battu à Monte-Carlo. Okay. Donc, ça a fait tout le monde. Et curiosité du tirage au sort, bah, il joue Panatta au premier tour. Ouais. Et là, à l'époque, il y avait 16 têtes de série. Panatta devait être 18 ou 19 mondial, toujours très dur à battre sur terre.
Panatta qui a gagné Roland une année, il me
semble. Ouais, ouais, qui a gagné Roland 2 ans avant.
Ouais.
Moi, je passe mon premier tour facile. Et je joue donc Connors, et puis tout se déroule bien. Je gagne le premier 6-2, le deuxième 6-3.
Même plan de jeu ?
Ouais, même plan de jeu. Jeu très, très accroché. Tous les jeux à égalité. Il n'y en a pas un qui a dû se faire à 40-30. Il y a toujours eu des égalités, des avantages. Et je mène 5-2.
Sur quel court ?
Sur le central.
Ah ouais.
C'était un mercredi. Beaucoup d'écoliers. Donc. Point important, c'est que l'arbitre qui était prévu fait une indigestion, donc il y a un autre arbitre qui le remplace et qui est juste un quart d'heure avant, qui était un vieil arbitre qui avait plus de 75 ans, qui n'était pas prévu pour ce match et qui a manqué d'autorité sur un moment clé du match. Et puis à 5-2, bon, il fait service volé, je fais un retour un peu flottant, il fait une bonne volée, je fais un passing qui sort de peu. Je m'avance vers le filet croyant que ma balle rentre. Lui, il s'avance vers le filet croyant que ma balle rentre et puis elle sort. Mais de 2 cm ou 1 cm. Donc, le passing, voilà. Après, le jeu, égalité, avantage. Et en fait, le match, il tourne le jeu d'après où on se retrouve à 5-3 sur mon service où à 15 ans, je sers un ace, mais 20 cm à l'intérieur, Connors… Il fait l'énervé, l'air de dire il sait pas servir, un truc machin. Et puis il vient montrer une marque, mais sincèrement au bluff. Et il montre une marque, mais qui a rien à voir, qui est 40 cm. Et l'arbitre qui devait s'endormir sur la chaise demande au juge de ligne. Le juge de ligne dit j'ai pas vu parce qu'il était devant Connors. Ouais. Donc j'ai pas vu. Connors il monte la marque. Donc l'arbitre dit on remet 2 balles. Mais 2 balles. Mais moi je saute le filet. La marque, elle était bien là et bon, et Connors qui me refait, qui rigole et qui arrange le public. Bon, donc 2 balles,
ouais.
Je loupe la première. La deuxième, je fais une double faute, mais l'arbitre ne dit rien. On joue un long échange, je gagne le point, l'arbitre dit 30-15, c'est inscrit au tableau, et là, Connors, il revient, il montre la marque, et là, c'était la bonne marque, mais on avait joué le point.
Ouais.
Là, palabre pendant 10 minutes. Et là-bas, les fautes et le truc et le machin. Le juge de ligne descend, regarde, il dit oui, en effet, cette marque a les fautes, tout, etc. 15-30, point perdu. Alors que le tableau était à 30-15 et j'avais la photo du tableau. Hein. Donc, on appelle le juge arbitre, palabre. Le juge arbitre, il dit j'ai pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la décision de l'arbitre. Entre-temps, Connor s'était monté sur la chaise d'arbitre, parlé à l'arbitre pour lui dire que la balle était faute, etc.
Bon. Incroyable. 15
ans. Je gagne le point d'après. Et le point d'après, à 30 ans, il y a un long échange, il monte. Je fais un passing qui touche la bande. Je me souviens de cette image. Elle est sur… C'est la seule cassette que j'ai, et j'ai que les 3 premiers sets d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas les 2 suivants. Et la balle l'aide et revient un peu sur lui, il s'allonge, il fait une volée presque plongeante et gagnante. Et donc, avec cette balle que j'aurais gagnée, alors est-ce que j'aurais gagné le point d'après avec ce passing s'il n'avait pas été l'aide? 1 mm plus haut, il n'était pas l'aide, 1 mm plus bas, il était aussi dans le filet. Hein. Ouais. Je ne vais pas dire. Voilà, donc. Et là, pareil, égalité, avantage, je joue après égalité, avantage, etc. Je perds le tie-break accroché et puis j'ai des crampes au 4e et au 5e, il jouait trop bien. Et là, ceux qui sortaient chez lui de quelques millimètres rentraient. Donc, voilà. Et ça s'est passé comme ça. Et en conférence de presse, ce qui est assez marrant, bon, moi, je sors et je me souviens, c'était Scoubé qui m'interroge. Il me dit, Jean-François, alors, tout le public n'a pas été pour toi. J'ai dit, oui, il peut remercier le public. Parce que c'est vrai que les gosses avaient pris fait et cause pour lui, mais il y avait comme il haranguait la foule sans arrêt, comment je râlais. Donc, il y en avait qui étaient pour moi, il y en avait qui étaient pour lui. Donc, c'était un peu… Le lendemain, sur Antenne 2, j'avais fait l'ouverture du 13h avec un sociologue pour parler justement de l'état des Français qui n'aiment pas les gagnants, qui préfèrent les seconds, poulies d'or, etc. Donc, le sociologue, il parlait de la mentalité française.
Tu devais plus le voir, toi, le Connors, à cette époque-là.
Non, parce que j'adorais son jeu. Donc, j'ai dit après, si j'étais dans les tribunes, j'aurais été pour Connors. Donc, mais il a dit en conférence de presse, un mec lui dit, mais vous êtes passé près, c'est votre plus grand comeback, etc. Il a dit, mais j'ai jamais été en danger. J'ai jamais été en danger. Il a dit, ma tactique, ma stratégie a été la bonne. Alors, c'est vrai que j'ai eu des crampes au quatrième. Il me faisait des amortis pourris. Sur 20 amortis qu'il a pu faire, il a perdu 19 points. Elle était pourrie, sa stratégie. Donc, mais j'ai eu des crampes au quatrième. Donc, il peut toujours dire que c'est à cause de ça, des amortis, que j'ai eu des crampes au quatrième. Donc, voilà. Il n'a jamais été inquiété. Et je le rejoue l'année d'après, au troisième tour. Mais année un peu particulière, parce que le 31 mars, jour de mon anniversaire, à Barcelone, je mène 7-5, 2-1 contre Villander. Je me fais une entorse de la cheville avec une déchirure des aponévroses. Donc, c'est pas le muscle, mais c'est la gaine. Et à l'époque, je me fais pas opérer, on n'opérait pas, compliqué. Puis je voulais jouer Roland Garros. Donc, je m'entraînais, je me souviens, j'avais une chaise et je frappais des balles. Ou j'étais sur une jambe et je faisais des services pendant que j'avais mes cours de rééducation, des trucs comme ça. Et j'arrive à Roland-Garros, boîte en bas malgré tout. Je gagne mon premier tour, je gagne mon deuxième tour contre Patrice Kuchna, qui était un ami, qui mène 2-7-0 au balle de match. Et la peur de gagner, 5-2 au quatrième balle de match, 5-1 au cinquième balle de match, et je gagne le match 9-7 au cinquième. Et il n'a pas réussi à gagner un match où je jouais sur une jambe. Où il devait me tordre, comme dans les deux premiers sets, mais après il a eu la peur. Et donc je dis à Dorfman, je lui dis je ne vais pas pouvoir jouer parce que j'avais un bandage qui me bloquait toute la jambe et le mollet, je boitais, j'avais un mouvement en fait de tiroir, hein, mon pied qui partait par moment. Ouais. Jacques me dit écoute, ce n'est pas possible, dimanche tu vas être le match que toute la France attend, central. On voit, on fait le point, mais qui est programmé sur le central.
C'était sur TF1 à cette époque-là, c'est ça ?
Je sais plus, ouais, je sais plus. Je sais plus. Je sais que l'année d'avant, c'était Darmon Kidé qui commentait, là, je sais plus. Et très bel après-midi, ensoleillé, avant moi, un très beau match, Petschi-Jean Mayer. Malheureusement, Jean Mayer abandonne à 4-2 au premier set. Et là, Dorfman, il me dit, même sur une jambe, tu rentres sur le court. Tu joues. Et je n'ai pas eu la force de lui dire, mais je peux pas. Et ça aussi, ça a été un de mes défauts. Souvent, j'ai continué des matchs avec des petites blessures plutôt que de dire non, stop, je suis pas à 100%. À 100%, je suis pas sûr de gagner. Donc, à 50, encore moins. Là, à 100% contre Connors, gagner, c'est déjà improbable. Donc, à 50%. Et je prends 6-1, 6-0, 6-1 en boitant. Et Connors me refaisait et claudiquait comme moi. Donc, voilà. Donc, ce match est anecdotique. Aussi, mais n'a pas de valeur sportive.
Et quand tu te retrouvais sur le banc à Roland, sur ta chaise au changement de côté, que tu voyais les gradins remplis sur la centrale ou quoi, tu te disais, mais je fais le métier le plus incroyable du monde, ce que je rêvais quand j'étais petit. Tu te disais, t'arrivais à prendre conscience de tout ça ?
Non, justement, ma grande faiblesse, quand on parlait justement, ma grande faiblesse, c'était le manque de confiance en moi-même et l'attitude que j'avais vis-à-vis d'un public où je pensais que c'était mon ennemi. Je n'ai jamais transcendé le public. Je n'ai jamais, si tu veux, je lisais encore Nadal qui disait jouer avec le public, c'est ce qu'il y a de mieux. Ou Federer, ou Yannick était un exemple, mais Connors c'était un exemple. Mais même McEnroe, il avait besoin de ça. Donc pour moi, le public était un ennemi.
Ah ouais.
C'était un préalable. Donc je rentrais sur le court, la tête basse, en me disant merde. Quand je savais que j'allais jouer sur le central, je me disais pourvu qu'on soit après-demain, quoi, et pas demain. Wow. Donc j'avais cette attitude. Oui, c'était quelque chose qui était invalidant, ouais, handicapant, parce que je ne m'exprimais pas, j'étais sur la retenue et j'avais l'impression qu'on me jugeait, tu vois. et on me jugeait mal. Et c'est la même. C'est pour ça quand je te disais l'épisode des avec les boutons, c'est qu'est-ce qu'on aurait pu penser de moi, un truc comme ça. Donc, ça m'a. C'est plus du tout ce que j'ai eu. Après, j'ai changé complètement dans mon attitude. Mais quand j'ai fini ma carrière, malheureusement.
Tu faisais beaucoup la bringue sur le circuit avec Yannick et consorts.
Non, pas du tout, pas du tout.
Ah ouais.
Jamais bu, jamais fumé. Non, au contraire.
Ah ouais.
Je préférais faire la bringue, faire n'importe quoi, tu vois, perdre des matchs. Non, j'étais dans d'une sorte d'équanimité, mais plutôt négative, tu vois. Pas à m'éclater, pas à profiter. J'ai profité beaucoup quand j'étais gosse avec mon mur, parce que j'étais solitaire. J'ai vécu beaucoup plus difficilement le côté professionnel, que j'assumais beaucoup moins bien, où je, un peu à la Benoît Paire, hein, c'est toujours la faute de la balle, de l'arbitre, du public, du soleil, de ma chaussure, mais jamais ma faute à moi. Tu vois, c'est toujours quelque chose d'autre, voilà, qui venait perturber mon mental.
Du coup, tu le comprends, Benoît? Ou Kyrgios, tu les comprends un peu, ces gars-là?
Oui, je comprends tout à fait tous les mecs qui pètent les plombs. Je comprenais Marcelo Rios. Je comprends. Quelque part, c'est une force d'être comme sont les mecs qui arrivent à se maîtriser. Une fois, j'avais fait dans un article sur l'équipe ce qui avait été mal interprété par Federer en disant qu'il était triste sur le court. C'est pas qu'il est triste, c'est que quand il avait 15 ans, il cassait des raquettes, il gagnait pas les matchs. Qu'à un moment donné, il a compris qu'il fallait être fermer le rideau. Il n'y a plus de sourire. On n'est pas là pour faire rire. On n'est pas là pour amuser le public. On est là pour gagner. Ouais. Pour gagner, il ne faut pas laisser transpirer les émotions.
Et ça ne te dirait pas, toi, de les coachs, de leur transmettre quelque part ton expérience à un gars comme Benoît Paire, d'entraîner?
Non, parce que tu ne peux pas maîtriser ça. C'est pour moi, c'est très compliqué. La force de Federer, c'est d'avoir été justement suffisamment fort pour maîtriser tout ça. La force de Djokovic, c'est de s'imposer cette rigueur à tous les niveaux, physique, mental, etc. Donc c'est une qualité, c'est un atout. Il y a des mecs qui sont passés à côté de carrières élevées. Je pense même Nastase aurait dû gagner 15 grands chelems s'il n'avait pas été Barjot. Mais bon, c'est un des joueurs les plus exceptionnels qu'il y ait eu. C'est un des joueurs que je préfère. Voilà, il y a eu des joueurs, Jiří Rebek, Pavelutka, qui étaient des Slovaques, et Jankowski. Mais voilà, c'était des fous. Et à un moment donné, on le voit avec Tomic, Kyrgios, ce sont des mecs qui n'arrivent pas à se contrôler.
Et Borg, McEnroe et Ash, tu les as battus où?
Alors, Borg, je l'ai battu une fois quand il était très jeune. En Coupe Valerio, il devait avoir 16 ans, j'en avais, ou 17, j'en avais 19, un truc comme ça, c'était moins de 21 ans, 7-5 au 3e. Et puis je le rejoue l'année où il arrive en finale de Monte-Carlo, je joue avant en Angleterre, sur ciment, et je le bats 6-1-6-1, 6-1-6-2 en jouant super bien. Un tournoi qui était à Norwich, voilà. Mais bon, c'était avant sa grande époque. Et puis, malgré tout, même à sa grande époque, son premier Roland-Garros, j'ai failli le battre. C'est le match d'ailleurs que j'ai le plus, sur lequel j'ai le plus de regrets. Parce que je jouais bien. La semaine d'avant, j'avais perdu en demi-finale contre Villa 7-5 au 3e dans un tournoi à Paris de préparation de Roland-Garros en battant deux bons joueurs avant. Et le tirage au sort, je joue Borg au premier tour. Il venait de gagner les internationaux d'Italie. À l'époque, Roland Garros était en 3-7, donc j'avais plus de chance. Et je perds 6-4 au 3e. Je suis à 4-3 au 3e. Je suis proche de gagner. Je n'ai pas véritablement mené pour gagner. Je n'ai pas été à 2 points, 1 point ou 3 points. Mais je suis à 4-3, 30A. Voilà, 4-4, il me break. Et je jouais vraiment bien. Là, j'ai eu plusieurs nuits où j'ai eu du mal à assimiler la défaite. Et puis, me dire que. Voilà, quand je joue bien, j'ai des tableaux qui sont durs. Il y avait sur les 128 joueurs, il y en avait deux, il y en avait trois. Villa, Sorrentes et lui que je voulais pas jouer. Et je tombe sur Borg. Donc, c'était aussi un moment un peu de me dire merde. Voilà.
McEnroe et Ash, c'était où?
Alors McEnroe, je le bats à Nice sur. Alors, c'était un tournoi qui était. Ça m'a compté dans mon classement, mais qui était exhibition. Il n'y avait pas de points ATP. C'était. Je joue en indoor et il pète les plombs à 4 partout. Je me souviens d'une erreur d'arbitrage. Il a pris sa chaussure, il a jeté sur l'arbitre.
Classique.
Il a pris un point de pénalité, donc il perd son service, 6-4-6-2. Et H, je le bats à Florence sur un match où pendant un set, je ne touchais pas une balle. Je n'arrivais pas à tenir ma raquette. Très mauvaise sensation. Puis je l'accroche au deuxième set. Et puis le temps était, c'était tard le soir, donc le terrain devenait de plus en plus lourd. Je gagne le tie-break et au troisième, il n'y avait plus de match. Je gagne facilement. Voilà. Après, il y a des joueurs. Hein. Je bats Panatta à Nice. Je bats un des plus beaux tournois que je fais, c'est à Bournemouth où je bats Oni Parun qui était 6e mondial aussi. Je bats Kodes Akstad qui était 4e mondial, l'année où j'arrive en finale. Il y a eu des matchs. Kodes a été un de mes meilleurs matchs. Un que je loupe, en fait, j'ai eu une période très, très, qui aurait pu être très positive et qui finalement a été négative. Je perds contre Connors en ayant balle de match. La semaine avant, je perds contre Barazzutti en menant 6-4-5-4 au Foro Italico, donc il était 10e mondial chez lui. J'ai pas de balle de match, mais bon, voilà. J'ai joué Barazzutti à Rome au premier tour, 9e mondial chez lui, c'est dur. La semaine d'avant, je perds en demi contre Ramirez en ayant 6 balles de match. Il était numéro 3 mondial. Donc, voilà, je me tape Ramirez, 6 balles de match, je perds. Barazzutti, je suis proche de gagner. Connor, je me tape au deuxième tour, j'ai balle de match. Voilà, ça aurait pu un peu changer ma vie, quoi. Enfin, une partie de ma carrière, au lieu d'être 50e, j'aurais été 20e. Voilà.
Le plus gros chèque que tu as pris, c'était où ?
C'est marrant, parce que le premier gros chèque que je prends, c'est Akstad quand j'arrive en finale.
Ok. Ouais. Donc, dans les alpages là-bas.
14 000 $, j'avais dû prendre, donc c'était une somme énorme.
Et tu gagnais bien ta vie à ton classement sur ta carrière, non ?
On gagnait suffisamment pour se payer nos voyages, avoir une vie, mais j'aurais pas pu me payer un coach.
D'accord.
Donc j'aurais pas pu.
T'avais des sponsors ?
Oui, j'avais des sponsors. Je jouais avec Fila.
Ouais.
Raquette, j'avais une raquette à mon nom. Je jouais avec les fringues Fila, ouais. Donc avant, j'avais joué avec les raquettes Gauthier. Avant, j'avais joué avec les raquettes Hilton. J'avais des petits contrats. Et puis voilà, j'ai 5 ou 6 ans, j'ai joué avec Fila.
Et c'était quoi cette histoire de d'évolution de matériel technique, petit tamis, moyen tamis, ou sur lequel t'as pas voulu passer ?
Bah, l'évolution, justement, elle s'est passée suite à. À cette année où je me fais une blessure donc à la cheville, où il y a le Roland-Garros avec Connors, où après Roland-Garros, je m'arrête 3 mois parce que je suis blessé. Donc, je reviens difficilement en fin d'année. Et mon classement, je vais être 60e, je me retrouve 120e. Et là, il faut travailler pour passer les qualifs et ça va pas être facile. Et puis il y a les changements de raquettes, j'essaye les raquettes, j'arrive pas à m'adapter. Et là, pareil, j'aurais pu m'adapter, mais si j'avais passé des heures d'entraînement avec ces raquettes, et je l'ai pas fait.
Ouais.
Donc je dirais que la transition, je n'ai pas pu la faire parce que je ne me suis pas donné les moyens de la faire.
D'accord. Comment t'as pris ta retraite du coup, et est-ce que t'as ressenti cette petite mort intérieure dont parlent les sportifs de niveau?
Non, parce que justement, ça arrivait à ce moment-là où j'avais une difficulté à m'adapter. Il y avait eu en même temps la naissance de ma première fille, Brune, donc juste avant Roland-Garros 80. J'avais beaucoup de mal à me séparer de ma fille. Donc voilà, il y a eu tout ça. J'avais mes stages à Tignes qui fonctionnaient bien. Je venais de rentrer chez Major. J'avais un contrat avec la Serre. Au niveau des fringues, prêt-à-porter toulousain. Voilà, donc j'avais des revenus. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller je vais m'entraîner encore. Je vais peut-être pas revenir. Donc, je passe à autre chose.
Okay.
Voilà, je passe à autre chose. Et puis pendant 4-5 ans, j'ai pas fait grand-chose. Je faisais mes stages, mes trucs, je vivais de ça. Voilà. Mais ça s'est fait naturellement. Et après, même ma carrière d'après, elle s'est faite naturellement aussi.
Ouais. Avant de totalement basculer sur la carrière d'après, est-ce que tu étais du genre à péter des gros câbles sur les cours et à prendre des amendes de temps en temps ?
Alors, oui, il n'y avait pas le système d'amende identique. Il est arrivé avec Anastase. C'est Anastase le premier qui a fait que l'ATP s'est un peu réveillé là-dessus. J'ai eu en effet quelques petits problèmes. J'ai eu quelques petits pétages de plomb, notamment un en national, qui a été justement l'année avant cette fameuse dépression. Parce que la fédération me suspend. Je suis à 4-2 au 5e set contre Christophe Freiss à Strasbourg. Il jouait pour Strasbourg, Christophe, que j'apprécie beaucoup. Et là, pareil, il y a une erreur d'arbitrage, à mon avis. On est pareil dans la pénombre. Et puis, Christophe me dit, j'ai pas bien vu la balle. L'arbitre dit non, mais j'en suis sûr. Ça aurait pu me donner 5-2. Puis l'arbitre dit non, je reviens pas là-dessus. Je monte sur la chaise, je le bouscule, je le traite de schpunz. Je savais pas que à Strasbourg ça allait être aussi mal pris. Je m'en doutais un peu, remarque.
C'est quoi la traduction?
Les schpunz, c'était les Allemands, les cheveux. Donc voilà, un bourgeois, tu le traites de schpunz, ça se passe pas très bien. Et il y avait le vice-président de l'époque, Charles Legge, qui était un bon petit bourgeois truc qui a été choqué par mon attitude et qui a demandé à ce que je sois suspendu. Donc, et je perds le match 6-4 et je pète les plombs complètement. À partir de là, je pète les raquettes, je joue plus le match, je balance, j'insulte l'arbitre, j'insulte tout le monde, je monte sur la chaise, voilà.
Ah ouais. Donc, tu disais que tu n'avais pas de fonds nécessaires pour te payer un coach, mais est-ce que tu te souviens d'un conseil en particulier qu'un coach ait pu te donner à l'époque qui t'a marqué tout au long de ta carrière?
Non, ce qui m'a le plus marqué, c'est lorsque j'avais une vingtaine d'années, j'avais mon dentiste qui suivait l'équipe de Suisse de ski au niveau de sophrologie. À l'époque, il y avait des Colombins, Russes, des mecs comme ça. Il était avec un professeur suisse et il prenait des cours, il le suivait dans cette équipe. Et il m'avait fait quelques séances qui m'ont fait un bien énorme et malheureusement que je n'ai pas suivi. J'aurais dû le faire et pendant 4-5 mois, c'est peut-être ce passage que j'ai eu, qui ont fait vers 19 ans et demi, 20 ans, qui m'ont fait basculer dans une autre dimension d'un joueur régional. Je suis devenu un joueur international. C'est peut-être ça et je regrette de ne pas avoir continué ça. Voilà, cette préparation mentale qui m'a fait défaut.
Ok. Ce que je te propose, Jean-François, c'est qu'on fasse une pause parce que j'ai rééduque là dans 20 minutes au kiné. Et puis, en fait, qu'on fasse un deuxième épisode tout simplement sur l'Open 13, sur le tournoi dédié au tournoi.
Ok. Ok. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Merci aux tout meilleurs qui sont encore là, les vrais qui écoutent jusqu'au bout. Big merci, Kojo, pour ta générosité à travers cet échange et je dirais même plus ce voyage. Envoyez vos épisodes préférés à deux amis fans de tennis, vous leur ferez passer un moment cool et le bouche à oreille nous aide sincèrement. Venez nous confier ce que vous avez aimé dans l'épisode avec 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est la plateforme qui permet le mieux de faire connaître la chaîne et vous lire est tout simplement un régal. Et si vous êtes sur YouTube, même tarif. Merci à Ernest et Ced qui nous écrit vivement mardi. Merci pour ces interviews qui nous permettent de découvrir des acteurs du tennis, joueurs, entraîneurs, avec des anecdotes très sympas. Ce commentaire m'a particulièrement donné le sourire puisque depuis plusieurs mois, ma vie est rythmée autour du podcast. Entre le montage que je démarre le lundi en fin de journée et qui prend environ tout mon mardi, c'est un projet assez fou qu'on pousse du mieux possible chaque semaine avec Johan, qui a créé Tennis Légende dans le but de vous régaler. On a d'ailleurs mis un questionnaire en ligne pour mieux comprendre ce qui vous ferait plaisir. Il prend 4 minutes montre en main à remplir et ce temps nous aide considérablement, alors merci par avance. Et comme annoncé dans l'intro, vous avez aussi accès gratuitement aux 7 conseils récurrents pour muscler votre mental sur un cours de tennis et jouer aussi relâché en match qu'à l'entraînement d'une part. Et d'autre part, vous avez accès à 4 optimisations enregistrées avec notre statisticien préféré, Fabrice Barraud, pour comprendre l'ADN profond de votre style de jeu et gagner plus de matchs grâce à la stat. Enfin, merci aux tipeurs récurrents qui soutiennent notre travail. On a créé un compte dont le lien est en description, car chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine. Par avance, un grand merci à ceux qui remplissent le sondage, aux bouches à oreille, à vos commentaires et à vos bonnes ondes de manière générale. Tous les liens sont juste en dessous, en description.
À mardi prochain, les légendes. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.